Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
En politique, on les appelle des porte-flingues. Ils ont l'art de la dialectique et souvent de la mauvaise foi, notamment lors des défaites électorales. Ils n'hésitent pas à monter au front pour défendre leur camp. Ce sont souvent les hommes du président, qu'ils soient président de la République ou d'un parti politique. Une description qui colle bien à Éric Ciotti et Christian Estrosi. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Bienvenue chez les tontons flingueurs de la Riviera. Gare aux pruneaux entre Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, et Christian Estrosi, le maire LR de Nice, deux amateurs de joute oratoire à la télévision ou dans l'hémicycle.
Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur du gouvernement. Et ce n'est pas acceptable et ce n'est pas supportable.
Est-ce que vous savez de combien est la baisse de dotation globale de la région chaque année ?
Monsieur Estrosi, je ne suis pas à question pour un champion, vous êtes gentil.
Pour les arbitrer, j'ai fait appel à Elsa Fresnay. Elle est enquêtrice aux Échos et s'est penchée sur ce duel au soleil de la Côte d'Azur.
Le 12, Christian Estrosi s'était montré le plus rapide aux essais.
Ça fait 3 semaines que nous n'avons pas couru sur les 750. Les préparateurs ont eu donc le temps de s'y donner à fond.
Les conditions physiques sont bonnes.
Ben maintenant, nous sommes au milieu de la saison. Nous avons fait quelques épreuves déjà assez difficiles. Et on dispose donc d'un certain entraînement.
Christian Estrosi convient d'entendre dans cette archive de l'INA. Avant de viser la pole position en politique, il a été champion de moto dans les années 70. 4 fois champion de France. Elsa, comment est-il venu à la politique ?
Alors, Christian Estrosi, d'abord, c'est un petit-fils d'immigrés italiens à Nice, comme il y en a beaucoup. Et il se cherche dans sa jeunesse, il fait les sports extrêmes, donc la moto. Et puis, vient une élection en 1983, où le maire emblématique de la ville, très polémique et contesté, Jacques Médecin, a besoin d'un peu un regain de popularité. Et donc, il s'adresse à lui et il lui propose d'être sur sa liste. Estrosi dit « Oh, j'aurai pas le temps et tout ». Et donc, il se met en dernière position sur la liste. Et il se trouve que Jacques Médecin est élu au premier tour. Et donc, il se retrouve conseiller municipal délégué au sport. Et puis, bah, puisqu'il a une tâche, il va un peu partout et il rentre en politique comme ça.
Et ça, c'est le début d'une longue carrière en politique.
Oui, absolument. Christian Estrosi se passionne pour la politique. Il va collectionner les mandats. Il devient le petit protégé. Un des protégés de Jacques Médecin. Il devient conseiller général et en 88, il rentre à l'Assemblée nationale comme député. Il est alors Benjamin de l'Assemblée. Il y rentre d'ailleurs en même temps que Nicolas Sarkozy.
Et c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il n'a pas le bac. On a d'ailleurs surnommé ses détracteurs le surnommé le motodidacte en référence à son passé de motard.
Oui, c'est un méchant surnom. Quand même marqué d'une forme de mépris pour les autodidactes. Or, oui, Christian Estrosi est un autodidacte, c'est aussi un bosseur fou qui a fait du chemin.
Nice, est-ce que vous serez candidat au municipal ?
La question n'est pas posée, enfin, je n'y répondrai pas aujourd'hui, j'y répondrai dans un an.
Vous interrogez, vous y réfléchissez ?
J'y réfléchis, je suis profondément attaché à ma ville, je suis député de Nice, ma circonscription est intégralement dans Nice, je suis né à Nice, je suis issu d'un milieu populaire de Nice.
Face à Christian Estrosi, il y a un autre politique qui ne manque pas d'ambition dans la baie des Anges, c'est Éric Ciotti.
Éric Ciotti, en 88, sort de Sciences Po. Sa famille est installée dans un village de la périphérie niçoise. Il se cherche un travail et il se trouve que Christian Estrosi cherche un collaborateur pour l'Assemblée et l'embauche comme assistant parlementaire. Donc, se forme là un couple qui, pendant 20 ans, va progresser main dans la main. Éric Ciotti donc a fait des études, structure les discours de Christian Estrosi, structure aussi une part de son ascension politique. Et Christian Estrosi, qui est un vrai battleur, qui a un vrai contact avec ses électeurs, etc., offre à Éric Ciotti ses premiers mandats, à savoir la députation en 2007 et la tête du Conseil général des Alpes-Maritimes en 2008. Donc, ils fonctionnent vraiment en symbiose totale pendant 20 ans. Ciotti est le collaborateur d'Estrosi, puis son bras droit. Ils se spécialisent tous les deux, comme ils sont sarkozystes, sur le thème de la sécurité. Ils veulent faire de Nice un laboratoire du sarkozysme sécuritaire, d'où les milliers de caméras de vidéosurveillance, une police municipale pléthorique, etc. Et ça marche pour tous les deux. Parce que sous Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi est ministre, Éric Ciotti devient le monsieur sécurité de l'UMP.
Ciotti, Estrosi, les deux ont des origines italiennes, les deux sont plutôt d'extraction modeste, et ils ont cet autre point commun, la ville de Nice. Jusqu'ici, tout allait bien.
Il devait parler d'Europe, mais à la tribune, Éric Ciotti n'a pu s'empêcher de faire siffler les oreilles de Christian Estrosi.
Certains apeurés et alléchés par quelques hochets quittaient le navire pour rejoindre Emmanuel Macron. Ils trahissaient leurs convictions.
On l'a entendu dans cette vidéo de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a presque un an, lors du Conseil des Républicains. Entre les deux hommes, rien ne va plus. À Nice, la bataille de fleurs, c'est la spécialité du carnaval. Ils ne risquent pas de s'en offrir. Mais que s'est-il passé ?
À entendre l'un et l'autre, ça a commencé en 2010. Éric Ciotti devient le monsieur sécurité de l'UMP, commence à aller sur les chaînes info, etc. À ce moment-là, Christian Estrosi, lui, n'a pas été retenu dans le gouvernement, il doit en sortir. Et donc, avant, il y avait un mentor et un poulain, et là, ça se rééquilibre. À entendre Éric Ciotti, Christian Estrosi n'aime pas qu'une autre tête que la sienne dépasse. À entendre Christian Estrosi, Éric Ciotti a envie de faire oublier que c'est lui qui l'a fait. En fait, il ressemble à un couple qui se connaît tellement qu'il finit par plus supporter. Et donc, entre eux, il y a d'abord une mésentente personnelle qui s'installe, fondée parfois sur le mépris, c'est-à-dire que Estrosi pense que Ciotti serait rien sans lui. Ciotti pense que Estrosi, s'il lui avait pas écrit ses discours pendant 20 ans, il serait rien non plus. Enfin, bon, voilà. Et puis ensuite, va arriver des désaccords politiques plus profonds.
J'ai certains amis dont l'amitié que j'ai avec est comprise entre 20 et 40 ans et qu'il faudrait bien se souvenir qu'ils ont fait des promesses et qu'il ferait bien de les tenir.
Deux amis de 30 ans ou presque qui s'affrontent ouvertement, ça rappelle un peu le duo Chirac-Balladur de la présidentielle de 1995, raillé par les guignols de l'info.
Oui, c'est une reporter de Nice Matin qui m'a confié cette image que j'ai trouvée très très juste. D'abord, la guerre Chirac-Balladur parce que c'est une lutte à mort, qu'il y a une élection à l'horizon, cette fois c'est pas la présidentielle, c'est la municipale de 2020. Et ensuite parce que au fond, en termes de caractère, il y a des ressemblances, surtout pour Christian Estrosi par rapport à Jacques Chirac. Christian Estrosi est un maire gouailleur à qui ses administrés demandent des selfies. Il est aussi changeant politiquement que Jacques Chirac, il faut bien le dire. Éric Ciotti est moins facile d'accès, moins changeant politiquement. Il a l'accent du Sud en plus par rapport à Balladur et de l'embonpoint en moins quand même.
Dans la passe d'armes entre les deux hommes, il y a une date clé.
L'ancien ministre Emmanuel Macron, pour lequel j'ai beaucoup de respect, est en visite dans notre région et que personne n'aurait compris que le président de la région élu contre Marion Maréchal Le Pen, je considère que les Républicains de cette région de tout bord n'auraient pas compris qu'à l'occasion de sa visite à Marseille, je ne le reçoive pas.
Le 1er avril 2017, en pleine campagne présidentielle, Christian Estrosi rencontre Emmanuel Macron, alors candidat d'En Marche à l'Élysée, autour d'un café, capté ici par le HuffPost. À l'époque, Éric Ciotti soutenait François Fillon. c'est peu dire que c'est mal passé.
J'aimais beaucoup le Christian Estrosi d'hier. J'aime beaucoup moins le Christian Estrosi qui est dans la majorité aujourd'hui, après avoir été élu par les Républicains. Oui, mais il est clairement dans la majorité. Vous savez, il vient de recruter, par exemple, mon adversaire aux législatives, En Marche, qui travaille désormais avec lui à la mairie.
Il faut dire que, sur le fond, les deux hommes ont commencé à se séparer politiquement au régional de 2015. Parce que Christian Estrosi démarre à droite toute. Au soir du premier tour, il est distancé par Marion Maréchal Le Pen. Il lui faut gagner les voix de la gauche. C'est Manuel Valls qui l'appelle en lui disant « va falloir que tu mettes du tien parce que c'est pas évident pour les électeurs de gauche de voter pour toi quand même ». Et en 24 heures, il se retourne. Il devient le chef de file de la résistance, l'ami des artistes, etc. Et il l'emporte et après son élection, ben, il abandonne la ligne à droite toute et c'est l'ouverture toute au centre, etc. Alors Éric Ciotti n'en revient pas quand même et lui il reste à droite toute. Donc petit à petit, leur chemin se sépare et il y a un vrai divorce en 2017, effectivement, pendant la présidentielle, parce que Éric Ciotti accompagne François Fillon jusqu'au bout, il est au Trocadéro, et Estrosi lui peut pas pour deux raisons. D'abord, il a des relations exécrables avec François Fillon depuis le quinquennat Sarkozy, donc il peut absolument rien espérer de lui. Et deux, évidemment, c'est par accord avec sa nouvelle ligne depuis les régionales de 2015.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte.
En enquêtant sur ces deux frères ennemis de la droite, Elsa, il y a une image qui vous est venue en tête. Celle des tontons flingueurs, pourquoi ?
Parce que la haine hystérise tellement la situation que y a ceux qui en pleurent et il y a ceux qui finissent par en rire. Quand ils ont cessé de marcher main dans la main, Estrosi et Ciotti n'ont pas arrêté d'essayer de se piquer les places. Ça commence pour les investitures régionales de 2015. Au début, Estrosi est maire de Nice, il a absolument pas envie de représenter l'UMP en PACA. Il pousse Ciotti, il lui dit « vas-y, c'est ton devoir », etc., etc. Et à l'époque, Éric Ciotti me confie « Estrosi me pousse, il faut que je me méfie ». Effectivement, il l'avait vu juste. Quelques mois plus tard, Estrosi se ravise, voit que l'élection va être extrêmement suivie par tout le monde, qu'il n'y a que des grands leaders, qui sera opposé à Marion Maréchal Le Pen, et c'est lui qui décide d'y aller. Il souffle la politesse. Donc là, c'est la cassure intime entre les deux. Ensuite, 2018, Ciotti prend sa revanche et il pique la Fédération des Alpes-Maritimes à Christian Estrosi et à ses amis. Et au niveau national, de fait, il lui succède à la Commission nationale d'investiture. En gros, la commission qui, chez LR, a la haute main sur toutes les investitures. Voilà. Le chassé-croisé se poursuit comme ça et la question c'est est-ce que Ciotti va essayer de piquer la mairie à Estrosi ? Il n'est pas encore décidé. Et enfin, j'avais envie de titrer les tontons flingueurs parce que la droite à Nice, c'est la droite façon puzzle. Alors, comme en France, mais depuis plus longtemps à Nice, puisqu'il n'y a pas une élection municipale depuis les années 90 où la droite s'est présentée unie. Et là, elle est façon puzzle parce que c'est à la fois des haines recuites et une divergence de lignes.
Et tout le monde doit choisir son camp.
Ah oui, absolument. Et puis, gare aux balles perdues. Et les petits maires à côté peuvent pas essayer de rester neutres parce que sinon, ils se font engueuler. Il y a une pression sur les subventions. On surveille à quelles réunions ils vont. C'est assez terrible, en fait.
Autant Éric Ciotti ne semble pas avoir changé d'un iota, autant l'image de Christian Estrosi n'est plus la même. Il semble moins clivant. C'est une reconversion profonde ?
Ça dépend ce qu'on regarde. C'est-à-dire que force est de constater que, y compris dans sa gestion de Nice, il s'est quand même pas mal ouvert. Il attire les cultureux. La communauté LGBT est bienvenue à Nice où il organise un carnaval queer. Et dans ses discours, effectivement, il n'a plus les mêmes envolées qu'autrefois, les mêmes coups de menton sécuritaires et sur l'immigration. Après, il abandonne pas cette voie-là. Faut quand même pas oublier qu'à Nice, on va avoir la reconnaissance faciale sur la voie publique. On est expérimente des policiers dans les écoles et Nice a toujours refusé d'accueillir des réfugiés. Donc voilà, il tient les deux bouts.
Il est très en même temps en fait.
Oui, et c'est deux bouts très très éloignés. Alors sur la question de la sincérité de la conversion, en fait tous les gens, tous les adversaires qui côtoient Christian Estrosi considèrent que c'est un bonimenteur. On m'a dit des phrases très fortes, du style « plus il paraît convaincu, plus il ment, tout est faux chez lui », etc. C'est vrai qu'il peut faire des changements de pied quand même très soudains. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Après, il y a aussi, quand on cherche à comprendre un homme, quand on est journaliste, on peut aussi identifier des ressorts plus profonds. D'abord, il y a eu des ressorts politiques. Clairement, Christian Estrosi a du flair. Et autant son changement de ligne au moment des régionales, c'était pour l'emporter face à Marion Maréchal-Le Pen, autant il a flairé que chez une partie des électeurs de droite, une forme de lassitude de la course à la surenchère. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le résultat des européennes à Nice, où les Républicains arrivent quatrième, ce qui est une contre-performance historique à Nice. Et enfin, dans la conversion, il peut aussi y avoir des ressorts personnels intimes. Dans les échanges que j'ai eus avec Christian Estrosi, il y a deux moments qui m'ont paru à la fois poignants et sincères. C'est quand il m'a parlé de ce qu'il avait ressenti le soir de l'attentat à Nice, le 14 juillet 2016, quand il se rend sur la promenade des Anglais, qui voit les gens à terre, les familles autour. Il ne faut pas oublier que Nice est à la fois une ville dont sont partis beaucoup de gens pour le djihad. Mais il ne faut pas oublier aussi et surtout que dans les victimes de l'attentat de Nice, il y a un tiers de personnes d'origine musulmane.
C'est un grand bouleversement dans ma vie d'être en charge, de découvrir sur cette promenade des Anglais dont depuis le jour de ma naissance, je n'avais entendu que du bruit de fête, du bruit de circulation automobile.
Et tous ces gens sont là, ce soir-là. Et il se trouve que quelques jours plus tard, Christian Estrosi reçoit une invitation du pape François pour une audience privée avec les familles des victimes. Il s'y rend fin septembre et là, toutes les confessions sont rassemblées. Sur ce moment-là, Christian Estrosi me dit « Quand on voit tout le monde comme ça, y compris les mamans voilées avec le pape François, on se dit qu'il est vraiment temps de faire la part des choses ». Il est très grave quand il me dit ça. Il y a un deuxième ressort, plus joyeux, plus intime. Il a fallu que je parle avec lui de sa vie privée, pas juste par curiosité, mais parce que tous les gens, proches ou non proches d'ailleurs, m'ont dit que sa nouvelle vie avait joué un rôle majeur dans son changement de ligne. Sa nouvelle vie, c'est sa nouvelle épouse, Laura Tenoudji, qui est chroniqueuse à Télématin, et une petite fille, Bianca, qui est née il y a bientôt 2 ans. Christian Estrosi a déjà 2 grandes filles. Mais bon, je lui pose la question comme ça, et là, je vois son visage qui s'éclaire et tout ça, et qui me dit « Mais si vous savez ce que ça rend heureux ?» D'accord ? Et pourquoi être papa sur le tard, ça rend si heureux quand on l'a déjà été ? Tout à coup, il me dit « Mais on s'y attend plus, on pense pas que ça va arriver, et puis il y a un bébé qui arrive, on a l'âge pour mieux apprécier la paternité. » Et il s'écrit, il me dit, c'est reset, même dans les politiques publiques. Reset, comme on réinitialise un ordinateur. Et donc, moi, j'avais devant moi un politique qui avait l'impression d'un redémarrage de sa vie. Et que ce redémarrage dans sa vie privée pouvait aussi être un redémarrage dans sa vie publique.
Allez, 62 ans, on a beaucoup parlé donc, de ses relations avec Éric Ciotti. Quand on veut refaire sa vie, ils sont irréconciliables tous les deux ?
C'est ce que dit Éric Ciotti. Après, la politique peut avoir aussi des intérêts supérieurs. Il se trouve quand même que donc les élections européennes à Nice ont fait un grand perdant. C'est le tenant de la ligne LR dure, c'est-à-dire Éric Ciotti. Il en est conscient. La raison pour laquelle il se donne l'été pour réfléchir s'il va ou pas contre Christian Estrosi municipal, sachant que lui, il me dit si j'y vais, c'est pour gagner, c'est pas pour m'installer dans une opposition à Christian Estrosi. Bon, donc ça, on verra, mais il y a d'autres inconnus aussi sur la ville de Nice. Et qu'il ne faut pas oublier que, toujours aux européennes, le Front National est arrivé en première position, qu'ils vont présenter un candidat, et que LREM est arrivé en deuxième position. Et LREM est très divisé sur Nice, entre les partisans d'une liste commune avec Christian Estrosi, qui est Macron compatible, et les partisans du renouvellement. Parce que les premiers marcheurs qui se sont engagés à Nice, certains, c'était quand même en opposition à Christian Estrosi.
Les municipales se dérouleront en mars prochain. Quel est le bilan de Christian Estrosi à la tête de la mairie de Nice depuis 2008?
On peut dire que Christian Estrosi a vraiment transformé et embelli sa ville. Embelli à coup de rénovation de bâtiments, transformé avec l'extension du tramway qui normalement d'ici la fin de l'année devrait relier le port de Nice à l'aéroport. Et puis, il y a multiplication des pistes cyclables. Au fond, comme dans toutes les grandes métropoles, il y a une réduction de la place de la voiture, une extension des parcs et des pistes cyclables. L'autre revers de la médaille, et qui est pointé par Éric Ciotti, mais aussi par tous les adversaires de droite, de gauche, d'extrême droite de Christian Estrosi, c'est le coût de ses travaux.
Pour moi, être de droite, et je le dis dans cette permanence, siège des Républicains de la Fédération, ce n'est pas augmenter les impôts. Et cette décision est d'autant plus grave qu'elle traduit également et qu'elle s'inscrit également dans un contexte où la dette est en train d'augmenter très lourdement pour Nice et surtout pour la métropole, sachant qu'une grande partie de la dette de la ville de Nice a été transférée à la métropole.
Il se trouve que la dette de la métropole de Nice a quand même progressé nettement, que Christian Estrosi a été obligé d'augmenter la taxe foncière sur la métropole il y a 2 ans, que comme il sait que les impôts sont un sujet tout à fait sensible, du coup il les baisse sur Nice, et c'est les maires des communes alentours qui se prennent l'impopularité. Donc il y a 2 questions par rapport au bilan d'Estrosi. C'est le bilan financier qui est attaqué par tous ses adversaires, mais pas sûr que ça marque beaucoup à Nice, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une ville qui voue encore un culte à Jacques Médecin. Jacques Médecin, n'oublions pas, il a dû fuir en Uruguay pour échapper à la justice, puis il a été extradé et condamné à 2 ans de prison pour détournement de fonds et corruption. Donc, et ce maire-là est toujours honoré à Nice.
Dans le prolongement de l'avenue Jean Médecin, la rue de l'Opéra va devenir la rue Jacques Médecin. Un choix de Christian Estrosi qui souhaitait honorer son prédécesseur, l'homme avec qui il a commencé en politique. Plus surprenant, lors du dernier conseil municipal, l'opposition a voté pour ce changement de nom.
Donc pas sûr que le thème des finances publiques marche beaucoup dans une campagne municipale. Il y a un autre thème qui est peut-être un peu plus dangereux pour le maire, et encore une fois, que thème qui est avancé par tous ses adversaires de droite, de gauche, d'extrême droite. C'est Nice, on a l'impression que c'est une ville pour les riches retraités. Et en fait, Nice, c'est ça, mais ça n'est pas que ça. D'abord, Nice a des quartiers populaires, parce que historiquement et depuis le 19e siècle, il a bien fallu des gens pour faire tourner les hôtels et les restaurants pour les riches retraités. Dans ces quartiers populaires, il y a des tas de gens qui sont attachés à l'histoire du comté de Nice, à une forme d'identité niçoise rêvée. Et les grands travaux dans la ville bouleversent aussi ça. Et donc, c'est pas pour rien que tous les adversaires du maire disent « Christian Estrosi est le maire des habitants de Nice, pas des Niçois ». Ils essaient de jouer sur la fibre identitaire. On verra ce que ça donnera. Et ensuite, Nice, c'est aussi une ville où sont venus s'installer des nouveaux habitants, étudiants, cadres de la tech et retraités de l'Europe du Nord. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer le vote La République En Marche et Vert aux européennes. Et ces nouveaux habitants, effectivement, votent un peu plus au centre, un peu plus écolo, voilà. Donc, Christian Estrosi est quand même un politique qui a du métier. Donc, comme maire, il essaie de parler à tous. En quelques mois, il a inauguré à la fois une rue Jacques Médecin et une école Louis Fiori. Louis Fiori, c'était l'opposant communiste historique de Jacques Médecin. Il vante à la fois son bilan environnemental et son bilan sécuritaire. Et il s'appuie aussi, comme tous les maires depuis Jacques Médecin, sur des communautés identifiées à Nice. Parce que Nice est aussi une ville d'immigration, arménienne, pieds-noirs, juive. Et Christian Estrosi s'appuie aussi sur ces communautés-là.
Merci Elsa Fresnay, enquêtrice aux Échos, pour cette contre-plongée dans les méandres politiques de la ville de Nice, mais aussi au sein du Parti des Républicains. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Jean-Philippe Louis. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de téléchargement préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.